Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Hiron Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois le professeur Daniel Haji Kawata, recteur de Leadership Academia University, qui vient de publier un ouvrage intitulé « L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ». Chers internautes et auditeurs de Radio Okapi, merci de nous recevoir chez vous. Révérend docteur Daniel Kawata, bonjour.
Bonjour Alain.
Comment allez-vous, professeur?
Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Merci.
Je sais que dans cette interview, on ne pourra pas aborder tout l'ouvrage, mais il s'agira juste de donner un aperçu aux internautes, aux auditeurs qui vont nous suivre. Pourquoi un tel ouvrage maintenant, en cette période, l'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle? C'est quoi l'opportunité aujourd'hui?
L'opportunité aujourd'hui, c'est que l'Église est dans le monde et le monde est en pleine évolution. Et l'intelligence artificielle joue un rôle capital dans l'évolution de ce monde-là. Donc l'Église, faisant partie de cet environnement, est déjà en train d'être influencée par la présence de l'intelligence artificielle. Alors, bon, on doit réfléchir. Certains disent, c'est le diable en personne. D'autres disent, oulala, c'est une opportunité à exploiter au maximum. Comment on peut réellement orienter l'Église devant cette réalité? Ça, c'est l'objectif que ça dit.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut considérer comme défi qui se présente devant l'Église en rapport avec l'intelligence artificielle?
Bon, les grands défis de l'Église devant l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle vient apporter des éléments qui, en quelque sorte, remettent en cause certains dogmes ou certaines pratiques de l'Église. L'intelligence artificielle, par exemple, dans le cadre du numérique, vient créer un monde à part le présentiel, c'est-à-dire l'Église qui est habituée à avoir, je pense, je parle de l'Église locale, qui est habituée à voir les membres venir, écouter le pasteur, écouter les responsables ecclésiastiques. Cette église-là se retrouve maintenant en présence d'un autre réseau, d'une autre possibilité, où ce n'est plus le pasteur seul qui prêche, qui a en quelque sorte le monopole du message. Les réseaux sociaux aussi a cette place-là. Quelqu'un, avec l'intelligence artificielle, peut faire un petit résumé et mettre ça aussi dans le réseau, et les gens vont commencer à suivre. Donc, l'Église est en quelque sorte partagée devant l'ancienne structure où il y avait réellement le seul pasteur, maître sur le terrain, qui doit être écouté, le seul prédicateur, le seul prêtre. Maintenant, les gens, sans venir à l'Église, ils peuvent écouter quelqu'un leur parler. Ils peuvent suivre un certain message. Maintenant, qu'est-ce qui se passe devant cette réalité? On peut se retrouver devant une disparité dogmatique, de doctrine, de toutes sortes de messages qui peuvent arriver. Et les chrétiens, de bonne foi, peuvent aussi se perdre devant cette réalité-là.
Je suis à la page 10. Je vais comme ça parcourir quelques pages. On ne va pas prendre tout l'ouvrage, comme on l'a dit. À la page 9 déjà, défis théologiques fondamentaux à l'ère du numérique. Il y a l'incarnation versus la virtualisation, la sacramentalité, la présence réelle, vous en avez déjà parlé ici, l'autorité en jeu, ce n'est plus seul le pasteur qui est l'autorité, mais il y en a plusieurs maintenant, le sens de la communion communautaire, le phénomène des croyants numériques nomades, ça aussi c'est un problème, l'érosion de l'engagement profond, les stratégies d'intégration. Je vais lire un extrait concernant l'autorité pastorale dans l'écosystème numérique. Je suis à la page 13. L'autorité pastorale traditionnelle se trouve profondément reconfigurée dans l'environnement numérique, confrontée à des dynamiques inédites qui transforment la relation entre pasteur et fidèle, Cette évolution touche à la fois les fondements de cette autorité, son exercice pratique et sa légitimité perçue. La démonstration de l'information théologique constitue un premier bouleversement majeur. Vous avez déjà commencé à en parler. Abordons par exemple la question des sacrements. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'accepter que des sacrements se fassent en ligne, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle?
Bon, je ne veux pas dire que c'est interdit ou c'est autorisé. C'est là maintenant le problème. C'est là que se posent certains problèmes. L'autorité pastorale aujourd'hui n'est plus la même comme hier. D'abord, sur le plan du suivi, le membre de cette église-là ne dépend pas simplement, uniquement, intrinsèquement de l'autorité de ce pasteur-là.
Ne dépend plus, disons.
Non, pas totalement. Il a d'autres sources, il peut se renseigner. Sans aller dans cette église-là, il peut suivre un autre pasteur et tout ça. Deuxièmement, depuis la COVID-19, avec les mesures qui sont arrivées, l'Église se retrouvait en face d'une réalité de fonctionner avec les gens qui sont incapables ou ne sont pas en mesure d'atteindre les lieux du culte. Alors, les sacrements, on parlait par exemple les protestants, ils ont la Sainte-Cène, ils ont le baptême. Comment maintenant administrer la Sainte-Cène aux gens qui ne savent pas venir, qui ne pourront même pas venir? Est-ce qu'il faut exclure ça? Ça, c'est un élément, je suis en train de traiter ça, pour dire l'Église doit réfléchir maintenant. Les réalités de COVID ne sont pas exclues parce que la période avant COVID est totalement différente de la période après COVID. On n'est plus retourné dans le passé. Alors, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui peuvent se faire baptiser par recommandation. C'est-à-dire, quelqu'un veut se faire baptiser, il ne sait pas venir à l'église, mais il se trouve dans un autre pays, il se trouve dans un autre coin, eh bien, les pasteurs de cette église-là peuvent s'entendre avec les gens de l'environnement où il est pour faire ces sacrements-là. Ça peut aussi être de la Sainte-Cène. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. L'on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas oublier ça, mais on doit mettre ça sur table pour voir qu'est-ce que l'église doit faire et comment on doit procéder. Par rapport à ça. C'est très, très important de traiter ces matières. Et je traite ces matières pour donner des pistes, des réflexions déjà maintenant que nous avons amorcé ces choses.
À la page 14, le sous-titre, c'est la prédication à l'ère des algorithmes.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce qu'il est par exemple possible qu'un prédicateur trouve une prédication à l'aide de l'intelligence artificielle ou voire même des prières recommandées par exemple?
Bon, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est une capacité que l'homme donne à la machine de parler comme l'homme, d'écrire comme l'homme, de penser comme l'homme. C'est ça, en fait. Alors, comme l'algorithme génératrice, par exemple, est capable de générer des prières, est capable de générer des messages, est capable de générer des exhortations même, est capable de préparer toute une prédication, et même si la voix est accordée de prêcher ça. Nous sommes devant une réalité qu'on ne peut pas négliger. Alors, devant cette réalité-là, le chrétien a tendance à se fier à l'intelligence artificielle. Alors, quand je parle de l'incarnation contre le virtuel, c'est-à-dire que l'homme de Dieu est censé communier avec Dieu, recevoir de Dieu la révélation qu'il faut, recevoir de Dieu la vérité qu'il faut pour transmettre ça aux autres. L'algorithme est préparé pour être comme un moteur de recherche très rapide, capable de retrouver tous les passages de la Bible qui parlent d'un sujet et de les résumer à sa manière. Ça peut être avantageux pour un chercheur ou quelqu'un, par exemple, donne-moi tous les passages de la Bible qui parlent de l'amour de Dieu. Avec l'intelligence artificielle, en moins d'une minute, tu as tous ces passages-là. Ça peut aider le prédicateur à retrouver les passages. Mais de là, aller lui demander de lui préparer l'enseignement, d'aller donner, je crois qu'il est en train de se démettre de ses fonctions et de laisser l'artificiel prendre la place. Parce que Jésus a dit, ce qui est cher, ce qui est esprit est esprit, et j'aimerais aussi dire que ce qui est artificiel est aussi artificiel.
Dans la table de matière, lorsqu'on la parcourt, le chapitre premier, c'est l'Église et les révolutions technologiques. le chapitre 2, présence numérique actuelle de l'Église, chapitre 3, l'avènement du numérique dans l'Église, chapitre 4, l'IA et ses implications actuelles dans le contexte ecclésiastique. Est-ce que selon vous, dans cet ouvrage, vous avez l'impression que l'Église a été suffisamment préparée à accueillir des outils tels que l'intelligence artificielle, tels que le numérique, tels que la technologie?
Bon, quand on parle de l'Église, on prend tout le monde ensemble. Dans l'Église, il y a des responsables d'Église. Certains responsables ne sont pas préparés à ça. D'autres qui ont un peu étudié peuvent comprendre l'importance de l'intelligence artificielle et peuvent bien l'exploiter en tout en mettant des limites. D'autres alors, ne comprenant pas, diabolisent ça. Donc nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir devant ces idées parce que dans un premier temps, l'Église n'est pas préparée à ça. L'Église n'était pas préparée et maintenant l'Église doit se préparer parce que ça fait partie des réalités. Qu'est-ce qu'on peut accepter dans l'intelligence artificielle par rapport au fonctionnement de l'Église? Où est-ce qu'on doit mettre des limites dans l'exploitation de l'intelligence artificielle et comment on doit le faire? C'est toute la problématique qui se pose ici. Pour moi, l'intelligence artificielle ne doit pas être exploitée pour remplacer le chrétien dans sa relation avec Dieu, dans sa communion. Il doit chercher Dieu, il doit écouter Dieu, il doit prier lui-même, il ne doit pas laisser l'intelligence lui formuler la prière. La prière, c'est une demande qui vient dans mon cœur par rapport à mes problèmes. Je dois les exposer à Dieu et attendre une réponse. Je ne dois pas demander à quelqu'un de prier pour moi parce que cette personne-là ne connaît pas tous les besoins de mon cœur. L'intelligence artificielle a été préparée pour proposer ces choses-là à sa manière. Donc, nous devons faire très attention. Il y a des prédications qui vont commencer à se donner et qui vont mettre le pasteur dans une phase où il ne fait plus rien, il n'est plus assez, exactement comme la calculatrice est venue apporter, vous voyez, un changement dans les chefs de certains enfants. Il y a une génération qui ne peut pas te dire 6 fois 6, ça fait combien. Mais à notre époque, on n'avait pas toujours ces facilités-là. On a développé l'aspect mental de ces choses. Mais il y a une génération qui est venue. Bon, il y a un côté positif et un côté négatif. C'est exactement ça qui apporte l'intelligence artificielle.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Kone, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbiye. Oponanga otalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabea motote. Soki pona masumunde obenga David l'om selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambea buena mona nanite. Soki opesi moto vision. Opiaka provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme une neige. Je compte sur ta grâce. Nzamba baboto, nzamba malamoué, namona nanute. Pasteur Ken Lomba, apôtre Kérok, naïe comme bonza, comme un sacrifice vivant dans tes parvis, mon Dieu. Coupable que je suis, elle qui en a mon thème. Au coup, paponanga, au sequa ponanga, Jésus. Na loboko ya droite, ya papa, aux armes intercéder. Mon avocat auprès du Père, c'est toi. On dit qu'un kembon de miola danzo, toi ma soumou, ponanga, héritier na koma monsatou. Joël Francis Tatou, King Sam, prophète Elie Samani, Kabé.
prisonnier boma moto na makala aza pena droit fungure pourquoi panga moto ya masumu
François Mutombo
sans toi bato avanda kina yena lola kaka pona mawa kitia kufi pona nga kana mezanga kino toa komi pesa toa komi kaba ponga na sabo ya seko opieto la selon ta grande miséricorde, ya ya. Kesunanga mikolo nyonso. Na masumu nyonso na sala na mokili ya se. Na tubeli, olimbisa na ya ya. Koka na mato ete okalo sambo mwana solela lisungi. Décharge na ye. Ah, Yesunanga, viens mon aide Seigneur. Je me sens bizarre, abandonné, flottant, comme un personnage dans une phrase que l'auteur ne finit pas.
Il n'y a que toi qui peux m'aider. Oh.
Radio Okapi. Grande interview.
Si vous venez de prendre cette interview en cours, nous sommes en train, avec le révérend docteur Daniel Kawata, recteur de Leadership Academy University, nous sommes en train de donner quelques perspectives, quelques bribes de son ouvrage, de sa dernière publication, L'Église à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Et comme j'ai le privilège d'avoir la table de matière, je vous signale que nous avons déjà abordé plusieurs questions. C'est par exemple l'Église, le chapitre 7, l'Église et la question des actes pastoraux au sacrement dans le contexte du numérique et de l'IA. Le chapitre 8, l'écosystème numérique et l'autorité pastorale. Le chapitre 9, la prédication à l'ère des algorithmes. Dans le chapitre 10, professeur, vous abordez la question de la fracture numérique au sein de l'Église.
La fracture numérique veut dire que il y aura des gens qui ne viendront plus jamais en présentiel. Ils seront considérés comme des membres d'une communauté numérique
virtuelle.
Vous n'allez jamais les avoir. Ils ne viendront pas. Même si aujourd'hui il vient, le lendemain il ne viendra pas. Et celui qui venait aujourd'hui, demain il ne viendra. Donc la fraction numérique sera là. Et comme la fraction numérique sera là, il faut entrevoir des méthodes. Comment atteindre ceux qui ne viendront plus jamais? L'Église, par exemple, une paroisse qui néglige ça, va voir que numériquement, les membres vont assister à leur programme de culte. En dehors de ça, ils ne pourront rien faire. Or, ils ont besoin d'être entretenus, ils ont besoin de connexions, des vecteurs qui peuvent les aider à poser des problèmes de leur vie. Parce que leur rencontre où on dit le pasteur reçoit tel jour, de telle heure à telle heure, la fraction numérique n'y en aura plus. Tandis qu'il y a des WhatsApp, il y a des systèmes de communication qu'on doit développer pour que ces gens-là se sentent suivis d'une manière ou d'une autre. Ce sont toutes les réalités que nous sommes en train de poser en ce moment-là, parce que le lendemain, vous serez obligé de prier avec quelqu'un au téléphone. Vous serez obligé de conseiller quelqu'un au téléphone. Mais dans ce système-là, il y a aussi mieux à faire plutôt que le téléphone, parce que il y a des messages qui peuvent partir à ces gens-là. Il y a comme des sites qu'ils peuvent aborder où ils peuvent présenter leurs problèmes et recevoir des réponses. Aujourd'hui, avec des vendeurs en ligne, vous pouvez discuter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous discutez avec la personne sur le prix, sur la qualité de ces vendeurs-là, ces grandes sociétés-là mettent en place les mécanismes pour le suivi de clients. Pourquoi l'Église ne ferait pas la même chose?
Pour le suivi des membres.
Pour le suivi des membres, avoir des sites où on converse, on parle, on traite des matières qui peuvent aider tant faire ce peu ces gens-là qu'on ne voit pas.
Le chapitre 11, vous abordez la question de la protection des données personnelles et de la vie privée des fidèles à l'ère du numérique. C'est important, ça.
Oui, ça, c'est très important. Avant, le fidèle voyait le pasteur à deux. Il parlait, il confessait, il lui montrait ce problème et présentait ses difficultés. Le pasteur lui donnait des conseils. Maintenant, ça vient sous forme de WhatsApp, sous forme de messages qui peuvent être traqués par d'autres personnes. Comment on doit assurer aussi la protection de ces données-là? Parce que quelqu'un part de sa vie, expose ça dans un vecteur qui peut être contre-vérifié ou même dévié par
d'autres.
Détourné. Qui peut même être écouté par d'autres. Qui peut même être lu par d'autres. Comment on doit protéger ça? Sinon, les gens vont se détacher directement de ce côté-là. Ils ne vont pas exposer leurs problèmes. Et même des virements bancaires qui se font maintenant, bon, on n'a plus le temps des offrandes dans une église parce que tout le monde aime ça, des virements comme ça. Ces genres de transactions peuvent exposer les données individuelles par rapport à l'église. Et il peut y avoir des gens, des arnaqueurs qui entrent dans des systèmes qui détournent aussi cet argent. La page de l'église, là où les gens sont censés entrer pour payer, peut aussi être arnaqué de sorte que cet argent-là ne va pas à l'église. Tous ces éléments-là doivent être vus, étudiés et bien compris plus tôt pour que l'église se protège et protège les membres dans ces genres de transactions.
Le chapitre 12, il s'agit de l'économie de l'attention et spiritualité chrétienne devant les conséquences du numérique.
Ouais.
L'attention, notre attention,
ouais,
en tant qu'auditeur, en tant que personne, c'est une richesse.
Oui, quand quelqu'un te prête attention, tu as la personne. Tu peux alors lui communiquer tout ce qu'il faut. Maintenant, l'attention n'est plus simplement portée à moi comme pasteur. L'attention est porté au système. Vous comprenez?
Oui.
Au système, c'est-à-dire quoi, YouTube TV, tel vecteur, l'attention est là-bas. C'est là qu'on va chercher l'information. Dès qu'on trouve quelqu'un d'intéressant, on lui prête attention là-bas. Donc, ce qui était en quelque sorte une richesse spirituelle d'une église, eh ben, elle est maintenant partagée. L'attention des membres n'est plus simplement à venir présentement dans une église. L'attention est partagée. Et ça, c'est du point de vue d'abord du leader. Vous n'êtes plus le seul. Il y en a plusieurs maintenant qui se font entendre. Même ceux qui n'ont pas de bonnes choses à communiquer, on peut leur prêter attention. Or, quand maintenant les blagues sur les nets, les ventes sur les nets, les films non recommandables présente sur le net, des bêtises entre guillemets présentes sur le net, pendant que personne ne te contrôle ton téléphone, ne peut te commander, tu peux distribuer ton attention à toutes ces choses-là. Au finish, ton temps n'est plus géré par des choses objectives. Ça, c'est très important.
Et il produit de l'argent pour les autres.
Oui, en plus. Oui, justement. Donc, c'est-à-dire que en ce moment-là, tu achètes les mégas pour suivre les blagues de quelqu'un, et tu achètes les mégas pour voir les images que quelqu'un a postées là-bas, tu achètes les mégas pour suivre une philosophie qui ne va pas t'aider, même si tu es curieux. Donc tout ça, ça devient comme des astuces de vol, non pas seulement de l'économie, mais de l'attention des chrétiens. Tout ça, ça doit être très exposé pour que quelqu'un sache comment je dois gérer mon temps, où je dois traiter mon attention, parce que là où je traite mon attention, je vais avoir des résultats par rapport à la source à laquelle je m'attache.
Et dans le cadre de l'Église, souvent, quand on a prêté son attention aux personnes non recommandables, c'est le pasteur de l'Église locale qui devient l'exutoire.
Oui, parce que là, on va le comparer, on va le juger, on va même remettre en question certaines de ses histoires. Donc, on ne prête plus attention à ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit peut être contrebalancé par d'autres sources. C'est vraiment un défi très, très important, très, très majeur.
Dans le chapitre 13, vous abordez la question des fausses doctrines et la désinformation religieuse en ligne. En ce moment, on parle beaucoup de désinformation, de fact-checking.
Oh, c'est un aspect très important parce que, d'abord, premièrement, tout le monde n'est pas théologiquement préparé. Ceux qui ont appris la théologie savent entrer dans le monde scientifique, biblique et consort, prendre ce qui est bon, enlever ce qui est mauvais. C'est pas donné à tout le monde.
Trier.
Donc, cette capacité n'est pas donnée à tout le monde. Voyez, dans la Bible, le pasteur est considéré comme un berger. Dans la pratique des bergers, avant d'amener les brebis manger quelque part, le berger doit d'abord aller sur ce terrain, enlever les mauvaises herbes. Enlever toutes les mauvaises herbes, maintenant, demain, il va prendre ses brebis, il va les amener là-bas. Donc quand tu vois, par exemple, le psaume de David qui dit « L'Éternel est mon berger, il me conduit sur le chemin ». Donc ce chemin-là, le berger a déjà fait ça et il vous conduit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Lui-même est déjà passé par là. Alors, ce qui est important ici, c'est que si le pasteur lui-même n'est pas impliqué dans ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, eh bien, il y a des gens qui vont préparer de fausses doctrines, qui ont lu des livres apocryphes, qui ont lu des livres qui ne sont pas
ésotériques.
Ésotériques et des formules. La magie est entrée là-bas, la sorcellerie a pris sa forme là-bas, et le chrétien ou l'innocent qui veut apprendre est devant toutes ces réalités-là. Surtout devant des sollicitations où si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu apprends, tu fais cette formule. Toutes ces doctrines sont à la portée de tout le monde, mais on ne sait pas qui lit quoi. Et dans ces conditions, il faut que là-dedans, on puisse entrer aussi pour donner la vérité, mettre à la disposition du chrétien dans ces vecteurs qu'il est en train d'exploiter. C'est la bonne doctrine aussi pour qu'il la lise à partir de là. Si elle est absente, en ce moment-là, on l'entend qu'à la chair, là où le pasteur prêche, mais dans les réseaux sociaux, on ne parle pas de ces choses. Et bien, en ce moment-là, les chrétiens qui s'adonnent, je ne sais pas combien de temps quelqu'un passe aujourd'hui devant son téléphone, devant ce système-là, je pense que ça peut être minimum 10 heures voilà, sur les 24 heures.
10 heures minimum.
Minimum. Et si quelqu'un passe 10 heures minimum devant son téléphone, devant, dans les réseaux sociaux, 10 heures par jour. Donc, vous rendez compte que, à part les 8 heures de sommeil, il n'y a que 2 heures qu'il est en dehors de ça, sans ça. Mais tout le temps, il est avec ça.
Est-ce que dans ce chapitre, professeur, on pourrait comprendre que le chrétien, aujourd'hui, doit être entraîné aux méthodes de fact-checking? Par exemple, si un détracteur d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu peut arriver à générer des images ou même des vidéos avec le visage de ce serviteur alors que ce sont des faussetés, les chrétiens doivent être quand même en mesure de détecter
ça. Non seulement les chrétiens, mais l'Église doit faire apprendre parce que vous pouvez suivre la voix, le visage de votre pasteur en train de raconter des craques. On peut lui faire dire ça. L'intelligence artificielle, de mauvaise foi, les gens peuvent faire ça. Aujourd'hui, quelqu'un peut chanter sans être chanteur, quelqu'un peut prêcher sans avoir été formé à la prédication, rien qu'avec l'intelligence artificielle. On peut même arnaquer toute votre église, pensant que c'est vous qui avez publié ça, et pourtant. Donc, le fait de traquer des fake news, des fake productions qui ne sont pas correctes, doit être très important dans cette cybercriminalité qu'on doit détecter ce qui est faux. Et l'Église ne peut pas être absente là-dessus. L'absence va faire que le faux puisse circuler. Mais la présence et la manière de contrer ça doit être très importante.
On a parlé tout à l'heure de la question des algorithmes, dont il faudrait donc qu'il y ait des techniciens, des informaticiens chrétiens aussi.
Absolument, parce que les algorithmes reflètent son concepteur. Si le concepteur est quelqu'un qui a appris comment éduquer les enfants, comment orienter les enfants, il produira des algorithmes qui aident les enfants de l'école le dimanche à apprendre la Bible, à poser des questions, et des réponses qui viendraient là, c'est des réponses préalablement établies par la personne qui a fait l'algorithme. Et si le chrétien n'entre pas là-dedans, eh ben, on trouvera simplement d'autres obédiences qui mettent ces histoires en ligne, parce que ça fait partie des moteurs de recherche qui vous reviennent avec des raisonnements, des réflexions et même des résumés.
Oh, no, 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 no,
l'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Je le rappelle, c'est l'ouvrage du révérend docteur Daniel Kawata. Nous sommes en train de décortiquer juste quelques éléments pour vous donner une idée. Professeur, quelles sont les opportunités que présente l'intelligence artificielle que l'Église devrait saisir aujourd'hui?
Bien, l'intelligence artificielle présente beaucoup d'opportunités, surtout en matière de recherche. En matière de recherche, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour quelqu'un qui veut en quelque sorte consulter la Bible, connaître certains éléments de la Bible, il n'a pas besoin d'un dictionnaire, il n'a pas besoin d'une concordance biblique. Déjà, cette intelligence artificielle remplace, devient la bibliothèque en quelque sorte, à la place du dictionnaire, de la concordance ou des autres types de commentaires. Parce que dès que vous posez la question à l'intelligence artificielle de vous générer autant de passages bibliques qui parlent de ça, il va vous parler de ça, il va même vous suggérer. Est-ce que vous voulez que je vous ajoute encore tel autre passage? Mais les limites là-bas, c'est de le laisser interpréter à sa manière certaines de ces réalités-là qui contredisent en quelque sorte la doctrine biblique.
Je saute directement, je suis au chapitre 21. Maintenir le cap, l'Église face à la polarisation numérique. Ouais. Je lis, c'est la page 636, hein. Je rappelle que l'ouvrage a 739 pages. Je suis à la page 636, vous avez compris le bon, je pense. Dans un monde de plus en plus divisé par les algorithmes et les médias sociaux, l'Église est appelée à jouer un rôle unificateur crucial. Ce chapitre examine comment les communautés chrétiennes peuvent naviguer à travers les eaux tumultueuses de la polarisation numérique tout en maintenant leur mission d'unité et de réconciliation. Ça, c'est vraiment danser sur le fil. Hein?
Exact, exact, parce que hier, les églises se discutaient sur la télé, devant, au travers de la télé, maintenant avec la possibilité de créer de mauvais messages, la possibilité de se détruire dans les réseaux sociaux, ça devient encore plus facile. On cherche les images d'un tel pasteur, on cherche peut-être les vidéos d'un tel, on peut en inventer, mais l'Église doit vraiment travailler pour éviter ce genre de choses et créer une unité doctrinale, évangélique, missionnaire. Dans ce cas-là, elles peuvent s'entraider parce qu'un membre qui ne vient pas ici, mais qui habite à 2 mètres de cette église-là, peut se retrouver, n'est-ce pas, aidé par cette église-là au lieu de venir nécessairement dans ce milieu. De cette manière-là, la gestion de la base de données des fidèles, les différents problèmes que les fidèles présentent peuvent être pris ensemble et traités ensemble par l'Église, qui doit maintenant s'unir pour dire, nous avons devant nous les mêmes réalités, que devons-nous faire devant cette réalité et comment devons-nous collaborer ensemble pour faire face à cette réalité-là. Donc ça, c'est très important. C'est très, très important.
Page 652, la formation des responsables à la gestion de crise numérique.
Ouais.
Analyse des mécanismes de polarisation, étude des dynamiques algorithmiques et psychologiques qui alimentent les conflits en ligne, communication de crise, technique pour maintenir un dialogue transparent et apaisant en situation tendue, protocole d'intervention, méthode structurée pour répondre aux controverses et conflits numériques affectant la communauté. Et enfin, le dernier point à ce niveau-là, accompagnement pastoral des personnes affectées, soutien spirituel et psychologique des fidèles blessés par les conflits numériques.
Oui, quelqu'un peut être blessé dans un conflit numérique. Vous savez, on l'a exposé, on a monté une cabale, on l'a exposé peut-être nu faussement, on a parlé de lui comme ça. Il est tout à fait déprimé. Maintenant, comment peut-être que celui qui est exposé appartient à une église, mais dans une autre église, il y a un technicien qui peut connaître, mais ça c'est faux. Vous comprenez? Dans ce mécanisme-là, on devrait s'entraider pour dire, comme les Kinois disent Ezui Chaku de Koko Sekate. Donc, quand quelque chose attrape le perroquet, qu'un oiseau ne puisse pas se moquer de lui, hier ça t'attrape, aujourd'hui ça peut être ton tour. Donc, on doit coaliser pour former effectivement des gens, des répondants en ligne, des traqueurs de mauvaises nouvelles en ligne. Aujourd'hui, les compagnies commerciales le font. Vous le font vraiment. Vous allez en Inde, vous allez trouver tout un camp où Microsoft, par exemple, a disposé des gens pour contrôler, vérifier, entrer dans tous les secteurs pour répondre à ces besoins. Tout ça, c'est tout un camp qui se trouve là. Eh bien, une église peut avoir, aujourd'hui, il y a des intercesseurs qui se réunissent le lundi, qui se réunissent. Demain, il n'y aura plus ces histoires-là. Mais en ligne, il y a tout un groupe qui répondent aux questions, aux préoccupations de ceux qui ont ce problème-là. Ils doivent les trouver en ligne et être en mesure de répondre à ces besoins et pourquoi pas leur suggérer des propositions d'encadrement en ligne.
Cela implique que l'Église doit se donner surtout les moyens.
Non seulement les moyens, mais doit former les gens. Aujourd'hui, tout le monde n'utilise pas l'Internet, tout le monde n'a pas la capacité, tout le monde n'a pas l'équipement qu'il faut, mais l'Église doit en avoir pour répondre. Il y a des églises, même vous entrez là-bas, il n'y a pas même la connexion Internet, ça n'existe pas. Vous entrez là, le système de production est tout à fait faible. Donc, l'Église devrait non seulement acquérir ces choses, mais aussi avoir une équipe formée pour entrer en ligne, répondre, détecter ce qui est fake, ce qui n'est pas vrai, et encourager et communiquer. C'est très important. C'est très important.
Page 674, vous avez abordé tout à l'heure la question des contenus non appropriés, entre guillemets. Page 674, exposition massive à la pornographie. Les études révèlent que l'âge moyen du premier contact avec des contenus pornographiques est désormais de 11 ans en France. Plus alarmant encore, 93% des garçons et 62% des filles de moins de 18 ans déclarent avoir été exposés à de tels contenus en ligne, souvent accidentellement dans un premier temps. Cette exposition précoce et répétée façonne leur vision de la sexualité en contradiction avec les valeurs chrétiennes de respect, d'amour et d'engagement. L'hypersexualisation qui en découle affecte profondément la capacité des jeunes à développer des relations affectives saines, fondées sur le don de soi, plutôt que sur la consommation de l'autre. C'est un autre véritable problème pour l'Église.
Bon, non seulement, ça c'est au niveau des réseaux sociaux, mais au niveau de certains systèmes de l'éducation, on va même plus bas. On va même aux enfants maternels, plutôt primaires, qui commence pour leur dire, voilà, vous êtes né comme ça, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez... Tout ça, les réseaux sociaux ne font qu'amplifier ce qui est déjà à la base. Si l'Église ne lutte pas au niveau du système éducatif, maintenant, au niveau de médias, elle va être perdue. Il y a des gens qui vont commencer à suivre des films porno pendant les cultes.
Donc, voilà. En même temps qu'ils disent Amen, ils sont en train de suivre autre chose.
Non, en ce moment-là, l'attention est volée. Vous voyez, quand Jésus a dit, un semeur est sorti, il a semé, une partie est tombée sur la route, les oiseaux sont venus prendre. C'est de l'attention qu'il s'agit. La personne, non seulement, n'est pas bien préparée, mais n'est pas attentive à ce qui se passe là-bas. Parce que, il est en train de chatter, de communiquer, pendant ce temps de culte où il devait donner son attention à la parole qui viendra lui donner la vie et orienter sa vie autrement.
Aujourd'hui même, professeur, on a vu à Kinshasa ici, et même sur les réseaux sociaux, on voit certaines images des églises qui interdisent carrément le téléphone, ou à la place du téléphone, on vient donner une Bible à quelqu'un, et c'est pour parer à de telles choses.
Bon, c'est pour parer à de telles choses, mais écoutez, avec la liberté que les gens ont, on peut facilement créer des hypocrites. On doit dire à quelqu'un, vous êtes ici, mettez en mode avion et puis vous n'allez pas recevoir des images si vous êtes en mode avion. Parce qu'il y a plusieurs versions des Bibles qui sont maintenant numériques. Et avec mon téléphone, je peux avoir 10 versions
en même temps
de la Bible qu'avec une seule Bible qui est imprimée, qui est Louis II, ou qui est parole vivante, ou qui est tout ça. Vous voyez, il y a un avantage là-bas, mais il faut exercer les gens, les exercer, les éduquer à ça. Interdire le téléphone, ça peut avoir des effets pour certains, mais pour d'autres qui sont tellement collés au téléphone, pour lesquels ils peuvent même bien exploiter alors en trouvant d'autres versions de la Bible, comparant ces versions de la Bible-là, vous êtes en train de les empêcher d'évoluer dans leur capacité évolutive.
Professeur, nous avons abordé les défis au début de cet entretien, les dangers, les opportunités de l'intelligence artificielle dans l'Église et vice-versa. Notre entretien est en train de toucher vers sa fin. En termes d'orientation stratégique, de manière résumée, qu'est-ce que l'Église devrait faire aujourd'hui?
L'Église devait savoir que l'intelligence artificielle peut présenter des opportunités comme des dangers. D'une part, elle devait s'exercer à voir quelles sont ses opportunités et quels sont ses dangers. Elle devait au maximum exploiter les opportunités et au maximum aussi comprendre ces dangers-là de ne pas affecter sa mission. Elle devait entrer dans le système, envoyer des gens dans les secteurs de l'intelligence artificielle, prévoir déjà que l'intelligence artificielle sera en quelque sorte comme l'autoroute qui va conduire beaucoup d'activités, prier et préparer des gens qui doivent aussi concevoir ces algorithmes-là dans l'avenir, afin que l'Église soit protégée contre un instrument qui est en quelque sorte un couteau à double tranchant.
Dans cet entretien, mesdames et messieurs, avec le révérend docteur Daniel Kawata, nous sommes en train de parler de sa dernière publication, « L'Église chrétienne à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle ». Est-ce qu'il y a déjà un prix pour ceux qui voudront se le procurer après?
Le prix, il est derrière le livre. Hein?
$45.
Voilà, le prix doit être déjà affiché là-bas.
$45. Alors, un dernier message, professeur, avant de terminer, à tous ceux qui hésitent encore à aborder des questions sur l'intelligence artificielle. On voit que ça s'entremêle, intelligence artificielle, technologie, ainsi de suite, numérique. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites pour terminer?
Bon, je dirais que hier, il y avait des églises qui interdisaient les chaînes de télévision. Aujourd'hui, elles ont ces chaînes de télévision. Demain, l'Église doit avoir des acteurs dans l'intelligence artificielle pour orienter totalement ses enfants avec ce même système-là. On doit confisquer ça de l'adversaire pour bien exploiter ça à notre profit.
C'est ce que je peux dire. Voilà, c'est déjà votre 100e publication, professeur?
C'est plus 10e, 15e, je ne sais plus.
Voilà. Et donc, le révérend docteur Daniel Kawata a toute une grande bibliothèque des ouvrages qu'il a publiés lui-même. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Je suis Alain Hiroum-Mouchinge. Révérend docteur Daniel Kawata, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien.
Merci Alain, merci beaucoup. Merci.
J'ai passé tous les examens du monde, mais le
bill, c'est fini.
Il ne me reste que 2-3 ans à vivre.
L'estomac
est hyper tendu et ce n'est même plus
la maladie
qui me tue, mais trop de soucis. Je me suis dit, là est la magie. Après 10 ans, toujours vivant.
Yoga, yoga,
colo cola,
si est ça l'épi.
Dis-moi,
si est ça l'épi.
Fais comme si tu l'avais déjà acquis.
Dis-moi,
Malobina zamo balina tongo na la muki.
na wana na bimie. Je ne suis même pas des Kasimi sala yango na na luki luki. Aucune issue, espoir a perdu. Vraiment na zugiye, vraiment déçu. Ma voix a l'entendu. Tina nili na mi kuma na welisa iwa e na mituni. Yango na yebi kosala passion ya motema na mekae. Depuis na banda, je fais ma musique. Je me suis vu dans stade, c'était la folie. Ça m'emplissait de joie, là est la magie. And today I'm a superstar. Imagine e afirme e sendo bolingo lobico me ava me me coma io e fureja.
Radio Okapi. Grande interview.